Bienvenue dans notre émission Le droit dans ses bottes, le podcast du droit appliqué au BTP, proposé par le cabinet d'avocats Adaltis et le moniteur des travaux publics et du bâtiment. Pour cette deuxième saison, nous partons dans les pas d'un avocat ou d'une avocate, explorer les terrains juridiques qu'arpenteront les acteurs de la construction dans les prochains mois. Du décret tertiaire à l'urbanisme transitoire, en passant par l'artificialisation des sols, le verdissement de la commande publique ou encore la protection des lanceurs d'alerte, il nous livre les clés pour mieux comprendre les enjeux, adopter les bonnes pratiques et anticiper les échéances. Une série d'interviews au micro de Sophie Dozon.
Je suis Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe du Moniteur, et aujourd'hui, nos chefs de chantier juridiques sont Guillaume Chéneau et Jamel Amadou. Guillaume est avocat associé spécialiste de l'urbanisme, et Jamel est architecte urbaniste en charge de la planification urbaine et des opérations d'aménagement à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est. Et nous allons bénéficier de leur regard croisé sur la lutte contre l'artificialisation des sols. Bonjour Guillaume.
Bonjour Sophie.
Bonjour Jamel.
Bonjour Sophie.
Alors on ne parle plus que de ça depuis la loi Climat et Résilience en 2021, le ZAN pour zéro artificialisation nette, qui devra être atteint en France en 2050. Guillaume, comment se décompose plus précisément cet objectif ?
Cette réforme issue de la loi Climat Résilience, c'est une réforme ambitieuse qui répond à une situation d'urgence avant tout, urgence qu'on constate tous aujourd'hui. Cette loi fixe donc une trajectoire finale et un rythme. La trajectoire finale d'abord, c'est que effectivement, en 2050, il faudra que l'on ait constaté en France une absence d'artificialisation nette à l'échelle du territoire national. Ça passe par un rythme et par des décades, c'est-à-dire une première période, 2021-2031, donc les premières 10 années d'application de la loi. L'objectif, c'est qu'on réduise de 50% la consommation d'espace par rapport à celle constatée sur les 10 années précédentes, 2011-2021. Et puis, sur les 2 décades suivantes, 2031-2041, 2041-2051, d'autres objectifs devront être fixés.
Alors, l'application de ces ZAN ne sera pas uniforme sur tout le territoire de l'Hexagone. Comment a-t-on conçu la territorialisation de sa mise en œuvre ?
Alors, on l'a conçu sous l'angle exclusif de l'urbanisme et du droit de l'urbanisme, donc par le truchement des documents d'urbanisme à travers une forme de ruissellement. Le point d'entrée pour l'application du ZAN, ce sont les documents régionaux, les SRADET, le SDRIF pour la région Île-de-France, les SAR Outre-mer et le PADUC pour la Corse. Ce sont ces documents qui, en priorité et en premier, devront intégrer les objectifs ZAN, avec un horizon fixé à février 2024 depuis la loi 3DS. Ensuite, on descend d'un niveau sur les documents supracommunaux, sur les SCOT, qui devront être mis en compatibilité avec les documents supérieurs, les documents régionaux, pour août 2026, en l'état du droit tel qu'il existe aujourd'hui. Et puis derrière, les PLU, PLUI devront être climatisés et donc mis en compatibilité avec les SCOT supérieurs pour août 2027.
Le droit dans ses bottes, par le Moniteur et Adaltis.
Donc on voit que c'est une approche assez comptable du sujet et ça fait naître des inquiétudes, des interrogations aussi pour le juriste, pour le praticien que vous êtes tous les deux et notamment pour la première tranche des 10 ans dans laquelle nous sommes déjà plongés.
Oui, tout à fait. Sur cette première tranche des 10 ans, il y a 2 questions principales qui peuvent émerger. La première, c'est par rapport au délai que je viens de rappeler où on peut avoir l'impression que finalement on a un peu de temps et que les choses vont se mettre en place tranquillement. En réalité, 2026-2027 pour les SCOT et les PLU, c'est demain, d'autant plus que l'approbation en 26-27, elle sera fonction de documents approuvés en 2024. Donc c'est extrêmement ambitieux et il y a déjà de nombreux appels à reporter les dates butoirs fixées par Climat Résilience. Sur l'approche comptable, la loi, elle est fondée sur l'idée selon laquelle on a un stock de foncier, un peu sur une théorie des vases communicants, c'est-à-dire qu'on parle d'artificialisation nette. Il n'y a pas d'interdiction d'artificialisation en tant que telle. Si on artificialise quelque part, il faut désartificialiser ou renaturer ailleurs. Et c'est vraiment la logique qu'il y a derrière tout ça. Logique qui sous-tend du coup une approche très chiffrée, voire exclusivement chiffrée, où il va falloir, dans les documents d'urbanisme, faire de subtils calculs entre ce qui rentre et ce qui sort pour atteindre l'objectif de moins 50% en 2031 et l'objectif zéro en 2050. Avec une première décade, effectivement, où on parle de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les ENAF, qui posent beaucoup de questions sur le plan juridique. Alors, l'objectif de réduction de la consommation depuis la loi SRU, tous les documents d'urbanisme y sont confrontés. Sauf que là, c'est vraiment la clé de voûte de la réforme, qu'il va falloir que les documents d'urbanisme soient au clair, d'abord sur la phase de diagnostic, c'est-à-dire quels sont les ENAF qui ont été consommés, avec toute l'incertitude qui entoure aujourd'hui véritablement la qualification d'ENAF. Il n'y a pas de définition en tant que telle. Et puis ensuite, sur les documents d'urbanisme, lorsqu'ils vont autoriser la consommation d'ENAF, pareil, il va y avoir un travail de réflexion à avoir sur ce que sont les ENAF et ce qu'est la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés avec des difficultés d'application évidentes, avec un contrôle du juge dont on observe par ailleurs depuis plusieurs années qu'il se renforce sur ces questions. On a tous en tête le contentieux sur le PLU de la métropole de Toulouse, le SCOT sur le bassin d'Arcachon, où on a eu des annulations du juge justement pour des questions d'insuffisance sur le diagnostic ou sur la question plus large de la consommation des ENAF. Donc on entre dans une zone de turbulence qui n'est évidemment pas favorable aux documents d'urbanisme et derrière aux opérations d'aménagement et à la production de logements.
Et vous, Jamel, comment vous naviguez dans cette période de turbulence avec votre PLUi ?
Effectivement, à Grand Paris en test, on est en train d'élaborer un PLUi et puis un SCOT métropolitain qui est en cours. Et en réalité, un certain nombre de documents ont déjà identifié ces enjeux avant la loi, et le SCOT métropolitain a fixé un objectif très ambitieux sur la question de la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Beaucoup plus que ce que la loi propose, avec une quasi-interdiction de consommation, à l'exception de ZAC identifiés avec un volume de 195 hectares. Le SCOT métropolitain devrait être approuvé d'ici l'été à venir. Alors, on fait exactement l'exercice qu'a indiqué Guillaume. On compte nos ENAF et la consommation des 10 dernières années. Et là, on se rend compte de la difficulté du sujet, parce qu'il faut les identifier suivant une méthode et il faut une démonstration pour ensuite indiquer les consommations qui sont prévues sur les 10 prochaines années. Le calcul se fait ensuite sur la base de ce que nous, on appelle un faisceau d'indices, puisqu'il n'y a pas de document, un annuaire où vous allez retrouver les ENAF. En réalité, nous sommes obligés de jouer un peu au détective. Alors, soit on a les ENAF évidents, hein, les bois, les forêts, etc. Et puis, il y a les ENAF qui le sont moins, c'est une zone grise. Et c'est là tout le sujet, tout le travail d'identification précise. La morale d'un peu de cette histoire, c'est qu'en réalité, on sait pas bien l'assiette des ENAF. Puisque la loi nous dit que nous allons passer de la consommation d'ENAF à de la consommation de sols non artificialisés. Quelle est l'assiette foncière des ENAF aujourd'hui et quelle est l'assiette foncière des sols non artificialisés ? Aujourd'hui, moi je suis bien incapable de le dire, et en réalité je ne sais pas dans quelle direction va la loi. Est-ce qu'elle va vers une plus grande protection des ENAF ou est-ce qu'elle va vers une consommation différenciée, etc.
On voit aussi les problématiques dans le détail avec la nomenclature adoptée par les pouvoirs publics en 2022, qui sert à mesurer le sol entre sol artificialisé et non artificialisé. Est-ce que, Guillaume, avec ça, on a un mode d'emploi efficace du ZAN ?
Non, Sophie, on n'a pas de mode d'emploi. La première décade dont on parlait, 2021-2031, c'est les ENAF. À partir de 2031, effectivement, on a ce décret qui existe à ce jour et qui devra s'appliquer pour la fixation des objectifs, et qui fixe, tel un catalogue, tel une nomenclature, ce qu'est un sol artificialisé ou ce qu'est un sol non artificialisé, en fonction de son état, de sa couverture, par l'eau, par un revêtement particulier. Et c'est à cette nomenclature qu'il va falloir se référer pour fixer les objectifs. On va regarder ce qui est artificialisé, ce qui ne l'est pas, et on va refaire ce jeu des vases communicants en disant si on artificialise, on doit désartificialiser en se référant aux critères et aux qualifications apportées par la nomenclature, avec un débat qui restera entier par rapport à celui des ENAF qu'on vient d'illustrer. C'est finalement, en zone urbaine ou périurbaine, les petits espaces naturels, les jardins des pavillons, les espaces verts qui peuvent exister au milieu des grands ensembles immobiliers, comment on les qualifie ? Est-ce qu'on considère que c'est de l'espace urbanisé ou est-ce qu'on considère que, non, c'est aujourd'hui un espace laissé à la nature, même s'il présente une toute petite superficie. La nomenclature donne des éléments de réflexion, mais elle s'inscrit parfaitement dans la logique comptable que je soulignais tout à l'heure.
Le droit dans ses bottes, par Le Moniteur et Adaltis.
En 2019, Jamel, dans le cadre de l'élaboration du PLUi de Grand Paris Grand Est, vous dirigez une étude d'urbanisme exploratoire à Rosny-sous-Bois. C'est une démarche assez rare qui s'apparente à de la recherche et qui a conduit votre équipe à s'intéresser de plus près au sujet des sols. Et de là a émergé une approche innovante dans la lutte contre l'artificialisation qui répond au doux nom d'urbanisme d'anticipation et de dissociation environnementale. Racontez-nous ça, Jamel.
En réalité, les objectifs qui sont quand même ambitieux, il sera difficile d'y arriver si on ne change pas notre manière de déployer nos politiques publiques en matière d'urbanisme et d'aménagement. Il vaut mieux effectivement se pencher sur un autre urbanisme. Et c'est effectivement ce que l'on a fait en 2019, vous le rappeliez, à Rosny-sous-Bois, avec une étude qui, effectivement, nous a permis d'avoir quelques moyens pour faire un peu de recherche, un peu de travail sur le sujet à la fois du climat, sa dégradation, et puis ces épisodes très intenses qui sont devant nous, et puis un environnement qui se dégrade. Les sujets de biodiversité sont régulièrement à la une des médias, et cette idée d'urbanisme d'anticipation et de dissociation environnementale répond à deux enjeux. D'abord, l'anticipation d'un climat qui change, et la question, plutôt sur le sujet de la biodiversité, mais on avait démarré comme ça, mais les deux sujets sont connectés, l'idée de se dissocier des sols. C'est une vieille idée, hein. C'est quelque chose de très simple en réalité, mais qui fonctionne redoutablement bien quand on veut répondre à la fois au sujet d'artificialisation. Et quand on répond au sujet d'artificialisation, on répond au sujet d'une meilleure résilience climatique, on répond au sujet de la question du cycle de l'eau, et on répond au sujet de la biodiversité et éventuellement de l'agriculture urbaine.
Et alors, comment ça marche exactement, ce concept de dissociation?
Le concept de dissociation, vous avez, je pense, tous en tête ces architectures un peu exceptionnelles que l'on trouve dans des sites naturels. En réalité, mieux valu que ces architectures n'existent pas, mais elles sont souvent dissociées. On trouve, notamment dans l'architecture touristique, une élévation sur pilotis, alors de faible épaisseur, qui permet en réalité d'avoir des sols qui sont plutôt consacrés aux écosystèmes non humains. Et nous, nous contraignons, nous les hommes avec un grand H, finalement à déployer nos besoins, nos services, à un mètre au-dessus des sols. Ça nous oblige à être sobres, puisque on doit construire, donc si on doit construire, eh bien, il faut que ça coûte le moins cher possible. Il faut qu'on rentabilise les usages, donc il faut intensifier les usages. Chaque mètre carré devra avoir le plus d'usages possible, j'ai envie de dire. Et puis, aller vers des sujets d'avenir. Si nous déployons cet urbanisme-là, évidemment, les parkings souterrains sont plus possibles. On va devoir les mettre dans le volume habitable, en tout cas consacré à nous, ce volume qui est un peu en suspension. Et puis, évidemment, il va falloir être sobre. On ne pourra pas, une place, deux places de parking par logement. Ça va être très difficile à réaliser avec cet urbanisme-là. Mais les services environnementaux qu'ils vont rendre, on pense que la balance est favorable. Elle est favorable dans la perspective d'un climat qui change et qui va poser de redoutables problèmes. Redoutables problèmes à la fois environnementaux, mais au niveau, en termes de santé. C'est pas... journaliste que vous êtes, que je vais apprendre ça, les impacts des canicules qu'on a pu constater, en particulier en 2003, c'est en dizaines de milliers de morts que les choses se comptent. Les pouvoirs publics doivent faire des efforts pour rechercher des solutions pour cette adaptation au changement climatique qui aura des impacts redoutables sur le plan de la santé.
Et cette démarche va être inscrite dans le PLUI?
Alors, cette démarche, elle inspire le PLUI, parce qu'elle ne peut pas être intégrée telle qu'elle dans un PLUI. D'abord, il y a un principe tout simple, très connu des avocats, qui s'appelle l'habilitation donnée par le Code de l'urbanisme. Nous ne pouvons pas tout faire avec le Code de l'urbanisme et avec la règle d'urbanisme. Néanmoins, on peut faire au moins une chose, et qui renvoie à la question du zéro artificialisation nette. Cette démarche d'urbanisme démarre en réalité, non pas par un exercice d'expression des besoins pour nous les hommes, toujours avec un grand H, mais une programmation écologique. Nous démarrons par un travail d'identification des besoins des écosystèmes non humains. En faisant ce travail-là, en réalité, on échappe à la logique infernale qui était de dire « je pose d'abord mes besoins et puis je regarde la consommation des sols et je regarde comment je compense, etc. » En faisant l'inverse, on pose en réalité le sujet de la protection des espaces naturels, donc des ENAF, donc des sols non artificialisés. Une fois qu'on a posé nos objectifs de protection, on vient dans le vide finalement qui nous reste, poser les besoins humains en termes de logement, en termes de services, etc. Résultat des courses, consommation des ENAF pour Grand Paris Grand Est dans les 10 dernières années, on était autour de 50 hectares. Avec cette démarche, on arrive d'une manière assez calme, sans se bagarrer avec nos élus, à une logique de consommation de 7 hectares. Vous voyez qu'on est bien mieux que la moitié demandée par la loi, parce que la méthode a permis, de manière assez pacifiée, de poser la logique de protection avant de se poser la question de nos besoins.
Guillaume, votre regard d'avocat là-dessus, est-ce que le droit aujourd'hui accompagne efficacement ces belles idées?
Non, pas encore, espérons-le. Les limites, Jamel les a résumées, effectivement, le droit de l'urbanisme aujourd'hui n'est pas armé dans la mesure où il se préoccupe, et c'est la mission qui lui est assignée par le Code de l'urbanisme, uniquement à l'état du sol, à sa destination, à son usage. Or, les travaux qui sont réalisés montrent qu'en fait, ce dont il faudrait se préoccuper, c'est la fonction du sol pour qu'il conserve effectivement toutes ses fonctions écologiques. Or, aujourd'hui, le Code de l'urbanisme, le droit de l'urbanisme, ne raisonne pas de cette manière. Alors, il y a des documents d'urbanisme, le PLU de GPGE en est une illustration, le PLU de la ville de Paris, le PLU bioclimatique, souhaite aller aussi dans cette direction, mais le Code de l'urbanisme n'offre pas tous les outils parce que on ne peut pas se soucier aujourd'hui dans un document d'urbanisme directement du rôle joué par le sol et des fonctions écologiques et environnementales jouées par le sol. Donc c'est pour ça que la loi climat résilience aujourd'hui, elle a le mérite d'exister, mais j'en reviens à mon propos précédent, en restant dans une logique comptable et de vaste communicant entre des additions de sols artificialisés ou non artificialisés, ce sera insuffisant pour atteindre finalement l'objectif qui est celui de la loi sur la lutte contre le dérèglement climatique qui devra vraiment se saisir des fonctions jouées et du rôle joué par les sols.
Merci Guillaume, merci Jamel, merci à vous chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Le droit dans ses bottes sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cet épisode avec votre réseau. À bientôt.